RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021 dont on espère évidemment qu'elle permettra à tous les fans de l'Ovalie de retrouver le chemin des stades et de vivre de grands moments de rugby. En ce début d'année, les poteaux sont donc de retour, reposés, rassasiés pour certains, motivés pour les autres. Denis Charvet, a priori, n'a pas fait d'excès, hein. il a toujours une ligne.
Allez, 2-3 kilos.
Ça va, mon Denis?
Voilà, c'est impeccable. C'est écoute, parti, on a suivi le rugby, on a continué à avoir du rugby pendant les fêtes.
Et ouais, c'est bien, vous avez tenu, le choc. Voilà, surtout que tout le monde ne travaillait pas pendant cette période. Également avec nous, Manu Massicard, le patron de Midi Olympique. Salut, mon Manu.
Salut, les amis.
À toi, au tien et à ce beau journal, évidemment, sur lequel nos lundis ne seraient pas tout à fait les mêmes. Hein.
C'est gentil, la même chose pour vous tous.
Et puis, ils sont là, eux aussi. Wilfried Templier, Jeff Paturo, nos inséparables, pif et paf du ballon ovale. Salut les garçons,
salut
bonne année à tous les deux.
Bon, moi c'est paf.
Bonne année.
Ah oui, toi t'es souvent paf. Faut bien le reconnaître. Une année qui a débuté de bien triste manière pour Xavier Garbajosa, l'entraîneur du MHR, licencié ce week-end après une énième défaite montpelliéraine. Et pour le remplacer, qui voilà, notre goré national, Philippe Saint-André, de retour aux manettes pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. L'ancien sélectionneur réussira-t-il là où tous les autres ont échoué? On entre en mêlée dans un instant. Montpellier n'est pas le seul club à avoir connu le vent du changement. À Castres aussi, on a changé de staff et le choc psychologique de l'arrivée de Pierre-Henri Broncan a, semble-t-il, eu du bon. Le CO qui est allé s'imposer à Lyon avec un Anthony Jelonge de gala et de combat, il sera notre frelon du week-end. Et puis on s'intéressera également au sort des Coupes d'Europe de rugby menacées par le Covid et par la position des clubs français qui menacent de quitter la compétition si les mesures sanitaires jugées trop laxistes, trop légères, ne changent pas d'ici deux semaines. Et la prochaine journée, ça sent bon, la boîte à gifles, tout ça. Allez, tout de suite, le coup de pied d'engagement et la première mêlée de la partie.
L'action, liée, jeu.
La 9e défaite en 12 matchs du MHR a donc eu raison de Xavier Garbajosa, l'entraîneur du MHR, écarté samedi par Moël Daltrade après le revers contre le Stade Toulousain. La fin d'une aventure qui n'a jamais vraiment souri à l'ancien international toulousain, arrivé à Montpellier à l'été 2019 et qui donc 18 mois plus tard présente un bilan pour le moins négatif avec pas moins de 21 défaites en 35 matchs pour le remplacer. Daltrade a donc choisi de faire confiance à Philippe Saint-André, de retour aux affaires 5 ans après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Le directeur du rugby du MHR va donc regoûter aux joies et au stress du terrain. Julien Landry, il est là lui aussi. Notre correspondant dans la région est avec nous. Salut mon petit Peyo et bonne année à toi.
Salut messieurs, bonne année à tous.
Alors Julien, Philippe Saint-André donnait à la mi-journée sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur. Tu étais sur place, pas trop stressé notre goré?
Non, plutôt détendu. Il a dit il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui est venu. On lui a même posé une petite question sur Raymond Domenech, vu que les anciens sélectionneurs sont à la mode aujourd'hui pour entraîner les clubs du top 14. Ça l'a fait doucement rire. Il espère juste pas rejoindre la longue liste des entraîneurs passés à la moulinette Moed Daltrade, Galtier, White, Cotter et donc Garbajosa pour les entraîneurs, Ledesma, Glass, Sowerby pour les adjoints. Depuis décembre 2014 et le départ de Galtier, Montpellier vit dans une incertitude permanente. Crise de résultats, crise interne, clan dans le vestiaire. Rien n'est épargné au MHR et malheureusement pour ce club, Daltrade est un homme pressé. À ce jour, il investit près de 40 millions, messieurs, dans le club. Oui. Pour un seul titre, le challenge européen et une finale de top 14. Il semblait avoir pris sur lui cette année en laissant du temps à Garba d'installer son projet de jeu. La défaite contre Toulouse, son club de cœur, aurait eu raison de ses ambitions. Mais son départ n'est pas une surprise pour Benoît Payog.
On se doutait qu'il allait y avoir quelques remaniements après les résultats. On connaît le club, on connaît un peu ce qui s'y passe depuis pas mal de temps. Pour être honnête, on savait que si on gagnait pas contre Toulouse, il allait se passer quelque chose. Après, à savoir si Philippe allait descendre, s'il allait y avoir quelque chose d'autre, est-ce que Xavier allait s'occuper que des trois quarts, ça on n'en avait aucun. On ne savait pas, mais voilà, on savait qu'il allait y avoir du changement parce qu'on n'a gagné que trois matchs.
Philippe Saint-André, directeur du rugby, avait même proposé sa démission samedi soir, ainsi que celle de Xavier Garbajosa. Daltrade la tranchée, Saint-André se rapproche du terrain, pas forcément pour entraîner. Alors il a retrouvé les crampons, le survêt, même s'il a un peu serré. Mais ce sont bien les adjoints Azam et Elissal qui auront la responsabilité des entraînements, comme l'explique Louis Picamol.
Déjà, il n'entraîne pas. C'est Jamba et Olivier qui sont sur le terrain. Philippe nous a dit que sa mission serait plus d'être en relais, d'être... plus dans le management, donc dans l'échange avec les joueurs, dans le bon fonctionnement que peut avoir l'équipe avec le staff, avec dans cette rotation qui peut exister dans un club. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai connu en équipe de France en tant qu'entraîneur. Là, il va avoir un rôle un petit peu différent.
Il n'a pas prévu de s'éterniser, par contre, rassurez-vous. Il vient juste assurer la mission maintien avant de se retrouver ses prérogatives de directeur du rugby, à savoir les partenaires, les recrutements.
Très bien. Alors, on rappelle que Philippe n'a plus coaché depuis 5 ans maintenant. La dernière fois,
ça n'avait pas l'air de lui manquer, en plus.
Oui, non.
Il n'est pas ravi. Hein.
Comment expliquer, finalement, ce retour aux affaires? C'est comme un boxeur, le comeback, l'éternel comeback. Est-ce que c'est une volonté de sa part, à votre avis, Denis, toi qui connais bien Philippe?
Moi, je pense qu'il a
longtemps sabré, d'ailleurs, sur l'antenne RMC. Aujourd'hui, j'espère que tu vas être clément pour lui. Hein.
Bien sûr. J'ai trop tapé sur lui, donc il faut je me calme. Non, mais je pense sincèrement que je pense qu'il n'avait pas trop envie de replonger, que c'est par défaut qu'il revient sur le terrain et il a une mission comme directeur sportif. On sait que directeur sportif, t'es pas loin du terrain, en gros. Et il y a deux mois, Jeff, c'est ça, Moël Altra lui a demandé quand même de se rapprocher du terrain. Donc c'est une logique implacable, quoi. C'est-à-dire que les résultats sont pas là, Xavier est sacrifié, et puis on dit à Philippe de finir la saison. Je sais pas si ça marchera, c'est une situation très compliquée, il va falloir s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que Montpellier ne joue pas bien, Montpellier n'est pas au mieux, et il va falloir trouver des ressorts pour gagner, parce que c'est la problématique aujourd'hui, c'est qu'il ne gagne pas.
Manu, est-ce que Philippe Saint-André est pour toi l'homme de la situation à Montpellier? Est-ce qu'il peut déjà sauver le club de la relégation? On rappelle qu'ils sont avant-dernier pour le moment, les Montpellierains.
Avec 3 matchs en retard.
Pas mal de matchs en retard. Mais est-ce que ça va le faire selon toi avec Philippe?
Philippe a de l'expérience. C'est aussi une génération de joueurs qu'il connaît pour beaucoup. Il connaît Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam. Il est dans son élément. Donc tu peux considérer que c'est l'homme idoine pour mener cette mission sauvetage. En revanche, je suis comme Julien, je me doute qu'il a pas très envie de revenir sur le terrain.
Non.
C'était pas son grand plaisir, c'était pas son projet. Et il l'a bien dit, hein, il est là pour quelques semaines, quelques mois. Il faudra ensuite que l'avenir de Montpellier s'écrive sans lui, au moins sur le terrain. Et puis, dernière chose, il sait aussi que l'instabilité montpelliéraine, elle est chronique et elle n'est pas simplement liée à Xavier Garbajosa. C'est un club et un président qui consomme énormément d'entraîneurs et il n'y a pas de raison que ça change. Si les résultats ne sont pas bons, il faudra bien que... Il sait aussi que lui pourra se retrouver sur la sellette.
Eh oui. Après, moi, j'aime pas trop la manière dont a été sacrifié Xavier Garbajosa. Après, quand tu lis entre les lignes...
Quand tu as un tel bilan, tu peux... C'est
moi, je trouve que Moël se mêle de tout. Il devrait rester président. Un président, ça préside. Un entraîneur s'entraîne. Des joueurs, ça joue. Je crois qu'il devrait prendre exemple un peu sur Jackie Lorenzetti, qui a construit sur la durée avec, on le sait, Laurent
Mais
Travers.
Il est pas assez patient, Denis. Il est pas assez patient.
Mais c'est ce que je te dis. Mais je te dis que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se mêle même du sportif. C'est ça qui m'inquiète chez Moed. Donc, l'issue était inéluctable, c'est certain. Mais après, il y a des façons de faire. Et aujourd'hui, je trouve que sa façon, elle est pas très élégante.
On fait un peu tout à l'envers, quoi. À Montpellier, on fait un peu tout à l'envers. Garbajosa arrive quand Cotter est pas encore parti. Donc, il y a des scissions dans le club. Il y a des joueurs qu'on n'a pas choisis. Mais ça prend du temps de faire un projet. L'exemple, un peu, il aurait dû prendre exemple sur Toulon. Parce que regardez Colazo, il l'a fait son année un peu de merde entre guillemets pour arriver, recruter des joueurs qu'il veut lui-même, monter son collectif, et on a attendu, on l'a laissé faire, et là ça va mieux cette année, ça doit construire comme ça. Mais Moed Altrade, ça fait des années que c'est comme ça. Il a l'impression que c'est comme c'est son entreprise, quoi. Ça marche pas. Ouais.
Il demande à ses entraîneurs des schémas de jeu. Julien, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu. Sont obligés de dire voilà comment on va jouer, voilà le profil de joueur, voilà ce qu'il sait faire, voilà ce qu'il
il n'est pas il n'est pas il n'est pas issu du monde du rugby, donc il a envie de comprendre comment fonctionne son entreprise. Donc c'est vrai qu'il demande il avait demandé à Xavier Garbajosa un projet de jeu écrit. Il avait demandé à l'époque à Verne Cotter une fiche de poste concernant quand Verne Cotter était encore en poste, quand Xavier Garbajosa était arrivé. Il avait demandé une fiche de poste en disant quelles étaient les prérogatives de Verne Cotter, quelles étaient les prérogatives de Garbajosa, et quand ça fonctionne pas, il va montrer la feuille en disant voilà ce que vous montrer pourquoi ça se passe pas comme ça. Mais il espérait pareil avec le projet de jeu. Et d'ailleurs, les joueurs, dimanche matin, à l'issue de la réunion avec Philippe Saint-André, ils ont noté un projet de jeu qu'ils vont envoyer à Moed Altrade pour satisfaire ses demandes.
Mais dans l'équipe aujourd'hui,
imagine si on te demandait ça, Babas, dans un projet de jeu. Alors, monsieur,
il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Vous êtes libre, dans la tête.
Tu pourras pas bosser
dans la tête, dans les jambes, dans le cœur.
Une caisse de pinard.
Non, mais il déclare même aujourd'hui qu'il avait demandé un système de jeu à Philippe Saint-André qui lui a jamais rendu.
Il en aurait fait quoi après Guadeltra?
Non, mais je veux dire,
mais en fait, il veut juste savoir ce qu'il se passe.
On touche le fond là. C'est pour ça que vraiment, il faut qu'il se remette en question lui aujourd'hui, Moued.
Certains le comparent à Kita, le président du FC Nantes. Bon, c'est vrai.
Oui,
que...
c'est les méthodes un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des crises existentielles. D'ailleurs, d'un coup, tu te sépares d'un mec parce que t'as plus envie de lui, donc tu vas chercher un autre.
Bon, après, c'est l'exemple de Toulon aussi. Hein. Boudjela a fait la même chose à Toulon pendant des années. Sauf qu'à un moment donné, il est tombé sur un os. Le premier, c'était Laporte qui gagnait tout, et le deuxième, c'est Colazo qui a été plus fort que lui. Mais le problème d'Altrad, c'est qu'il, vous l'avez dit, il connaît pas le rugby. Il a envie de le rationaliser, de le comprendre, et
il se plante.
Et il a mis énormément d'argent très rapidement dans le club, et il avait l'impression que en contrôlant le sportif, au moins la direction du sportif, il allait pouvoir le rationaliser comme une entreprise. Eh ben, il a pas compris. Oui,
mais pour que ça marche, mais pour que ça marche,
t'attendrais pour ça.
Mais exactement, même Manu.
Ouais, mais c'était voué. Et en fait, il était depuis le début cherchant un directeur sportif. Rappelez-vous qu'il a pris, il avait pris Abdelatif Benazi aussi. Hein.
Oui, mais pour que ça marche, il faut donner du pouvoir à ces gens-là. Regarde le Stade Français, le Wild, il donne du pouvoir à Thomas Lombard. Thomas Lombard s'occupe du sportif. Il s'en mêle pas, et ça commence à prendre, ça commence à faire son effet.
Ouais, ça n'empêche pas le Stade français de rater l'avion pour aller à Pau le week-end dernier. Mais
oui,
tu as raison.
D'accord, mais bon, non, mais tu as raison, mais.
Et boum.
Sauf que.
J'ai rien dit.
Thomas est dans son rôle, je suis désolé, et je pense que Philippe, il était dans son rôle, commençait à être dans son rôle, mais il n'a pas assez de pouvoir. Voilà, c'est quelqu'un qui.
Ouais.
Ben, il me semble. Et
c'est à double tranchant aussi, monsieur, parce que ça devient. Ouais, ça de. Il a. Si Montpellier a joué les premiers rôles, c'est aussi grâce aux moyens d'Altrad, mais ce club en devient tellement antipathique et. Et on a une pensée qu'il y a des amoureux de ce club, quoi. On devient tellement antipathique avec ces méthodes-là, avec le discours qu'Altrad aujourd'hui dans l'équipe.
Ah oui.
Mais les gens, ils hallucinent, quoi. Et pour les joueurs et tout, c'est incroyable de vivre dans cet environnement.
Et après, il y a
ce match. Il n'a pas le pouvoir.
Il balance à la fois sur Garbajosa, ce qui n'est pas très élégant.
Philippe, directement.
Et ensuite, il balance sur celui à qui il a confié les clés.
Confié les clés. Mais non, mais c'est hallucinant.
Parce qu'il est pas content il est très content du travail de Philippe Saint-André en tant que directeur sportif.
Alors pourquoi il le met en entraîneur? Non mais
très clairement, vous avez dit qu'il avait demandé à Philippe de se rapprocher du terrain il y a 2 mois. Sauf que Philippe, il est venu sur la pointe des pieds depuis 2 mois. Il est venu animer que quelques séances, alors que Moued Altrad lui avait demandé véritablement d'être adjoint. Et je vous annonce qu'on prépare un nouveau problème, parce que là, Moued Altrad a demandé à Philippe Saint-André d'être entraîneur. Sauf que Philippe le veut pas, et que aujourd'hui il y a le flou au sein du vestiaire, parce que même les adjoints ne savent pas si c'est eux qui entraînent ou si c'est Philippe. Philippe, il veut pas entraîner, et Moued Altrad lui reproche finalement de pas être assez intervenu. Là, il veut qu'il intervienne, mais Philippe, il a pas vraiment non plus envie d'y aller à fond, hein. Donc c'est pour ça que ce matin, il a sorti un peu le parachute en disant non, c'est Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam qui entraînent. Moi, je suis là pour manager et pour faire un peu la composition des équipes.
Ça
s'annonce la catastrophe d'ici quelques semaines.
Je garderai ma maison à Bandol, hein, si j'étais Philippe Saint-André. Je n'en vendrai pas tout de suite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bon, il a pas envie de la lâcher. Hein.
Ah non. Et on lui souhaite évidemment bon courage et plein de bonnes choses. On l'adore, notre filou national. On espère que ça va marcher avec lui. Saint-André qui va connaître le baptême du feu très bientôt, puisque son équipe sera sur le pré dès mercredi à Gerland face
sans
au
équipe.
Il n'y
a que 15 joueurs.
Plein de blessés.
Il n'y a que 15 joueurs aptes pour aller à Lyon.
T'imagines si tu lui demandes de rejouer.
Il y a 15 blessés, ils ne feront jouer aucun des joueurs qui ont joué 80 minutes samedi contre Toulouse. Donc il n'y a que 15 joueurs aujourd'hui pour partir à Lyon.
Les remplaçants, j'espère.
Non, pour moi, il n'y a pas de remplaçants.
Et quoi,
il n'y a pas de remplaçant.
Tu es obligé d'avoir 23 joueurs sur la feuille de match.
Eh ben, ils sont en train d'aller récupérer les jeunes du centre de formation.
Jean-Baptiste est encore affûté, Wilfried, toi qui le connais bien, hein. Il pourrait peut-être entrer, non?
Ça, c'est moche de rigoler.
Non, il y a eu les fêtes, tout ça, bon, bref.
vous deviez
être. Il y avait eu avant les fêtes aussi.
Merci, Peyo. Bonne chance avec ce club de Montpellier. Au moins, tu t'ennuies pas avec le MHR. Le MHR qui compte donc 3 points de retard sur 4. Qui est 12e au classement, les Castrés qui eux aussi ont changé de coach avec la promotion juste avant le nouvel an de Pierre-Henri Broncan, passé d'entraîneur des avants à coach principal, changement salutaire puisque le CO a réalisé le coup du week-end en allant s'imposer à Lyon 15-14. Ça valait bien un frelon d'or attribué cette semaine à Anthony Jelonche.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Le 3e ligne Castré qui, comme tous ses coéquipiers, a été du genre épais sur la pelouse lyonnaise, que ce soit en attaque ou en défense, il a été Wilfried omniprésent, et ce n'est pas la première fois cette saison, hein.
Ouais, bien sûr, Anthony Gelonge s'était déjà rappelé notre bon souvenir à l'automne. Souvenez-vous, avec le 15 de France au sein de cette équipe B entre guillemets des Bleus, vous vous rappelez, que ce soit contre l'Italie ou en Angleterre, bah, du haut de son 1m93 et ses 105 kilos, il avait poussé quelques charges et mis quelques timbres. D'ailleurs, l'Anglais Billy Vunipola doit s'en souvenir. Et bien, samedi soir à Lyon, c'était pareil avec ses gros bras. Il a récupéré des ballons importants dans les rucks. Il est venu maintes et maintes fois lancer au ras. Il a marqué un essai comme ça. Et puis en fin de match, c'est sur une de ses sorties de mêlée où il a fait mal à la défense que bah, dans un deuxième temps l'ailier Palis marque l'essai de la victoire. Cette victoire fait un bien fou à un Castres olympique qu'on a retrouvé sur ce match, hein, les chiens castrés, moi comme j'aime à les appeler. Et au sein d'eux, Gelonge est actuellement en très grande forme. Alors c'est important, messieurs, parce que on est à un mois du début du tournoi Destination Italie-France, c'est le 6 février, et en troisième ligne le titulaire François Cross, eh bien il s'est blessé au pied face à l'Irlande, hein, souvenez-vous, mois d'octobre, donc il n'a toujours pas rejoué. Il devrait bientôt revenir, mais Gelonge avec Cretin, le Lyonnais aussi, ce sont des vraies alternatives pour Galtier. À 24 ans, Gelonge commence à avoir une certaine expérience. Ce calme est la première en 2017. Entre temps, il a été gêné par deux opérations aux épaules. Il a été champion de France en 2018 avec Castres. C'est un troisième ligne très puissant que j'ai rarement vu moi reculer sur un terrain. On le compare souvent à Juan Smith, hein, le Sud-Africain de Toulon. C'est aussi Toulouse qui se frotte les mains parce que la saison prochaine, oui, il rejoindra son grand copain Antoine Dupont. Ils ont joué ensemble à Auch et ils étaient colocataires à Castres quand Dupont était encore sous le maillot du CO. Et puis il renforcera surtout une troisième ligne qui avec Cross, Tolofoa, Elstad, Mikel Placide. Il ne manque pas de talent. Mais avant, Gelonge l'a dit en interview à la Dépêche du Midi récemment, il veut faire honneur au CO jusqu'au bout. Ça, on peut lui faire confiance.
Voilà, Anthony Gelonge, donc frelon du week-end. Denis, c'est un sacré joueur.
Encore sacré une joueur, fois, sacré mec.
Le réservoir pour le 15 de France est...
J'avais eu la chance de l'avoir avec les Barbarians français en Afrique du Sud. Il avait fait un match énorme. Donc, il est complet.
Il a une grande simplicité. Hein,
très simple. Très simple. Et puis surtout, non, physiquement, il a raison. J'ai jamais vu reculer sur un duel. Il est très costaud. Il est très, voilà, c'est vraiment un joueur qui peut s'imposer en équipe de France. Voilà, il a des chances.
C'est le bon choix de partir à Toulouse, Manu, la saison prochaine. On a vu qu'en troisième ligne, il y a quand même pas mal de monde. Il n'est pas certain d'être titulaire souvent. Hein,
avec t'as Madol qui part aussi, qui est aussi lui sur.
Kaino qui va arrêter
Oui, merci. Voilà, je cherchais les deux noms. Donc il y a des portes qui s'ouvrent. Après, très franchement. Toulouse qui t'ouvre les portes, il faut
bien
y aller.
Bien sûr.
Hein.
Oui, surtout quand t'es
t'es désiré en même temps. Hein, ouais. Donc si Gomola le fait venir, c'est pour jouer. Hein.
En équipe de France, il a aussi la possibilité de venir titulaire, de passer devant Cross.
Bah si tu le retrouves comme tu l'as comme face à l'Angleterre, où il a gommé un petit peu ce côté nonchalant qu'on pouvait parfois lui reprocher, c'est un garçon qui pue le rugby et qui mérite effectivement de postuler à la sélection. Et après il y a du monde. Hein.
Et il est polyvalent. Manu, il peut jouer 8, 6, formation de 8, je crois. Hein, c'est ça. Ici 7 et puis il saute en touche, il a de grosses qualités de sauteur, donc complet, un joueur complet, mais surtout il a mental, on l'a vu en Angleterre, il a rivalisé avec les meilleurs.
Après j'y reviens, il y a du monde, hein. On a parlé de Cross qui est blessé, mais tu as Woki, peut-être Makalou.
Ouais, mais aujourd'hui, il a quand même mis le doute dans la tête de Fabien, peut-être, avec ce match contre les Anglais. Hein.
Tu crois que Fabien Galtier...
Ah, ben oui, moi je pense que...
Il doute de rien.
Non, mais Fabien aime beaucoup ce joueur. Il aime beaucoup ce profil. Et
après, si Cross est là, normalement, la troisième ligne, c'est Cross, Aldrit, Olivon.
Oui, mais il peut devenir remplaçant.
Il y a Cretin aussi, hein.
Il est polyvalent. Ouais, mais comme il est polyvalent, il fait 8 et 7.
C'est ça.
Donc,
exactement.
Et encore un passé par Auch, messieurs.
Eh oui.
La pouponnière.
Très bien. Eh bien, nous sommes ravis d'avoir encore un joueur capable de faire la joie du 15 de France. Messieurs, il est l'heure maintenant d'ouvrir la boîte à gifles quand même. Eh oui, c'est là.
RMC, entre les poteaux. La boîte à gifles.
La boîte à gifles ouverte entre les clubs du top 14 et le PCR, l'instant chargé de l'organisation des Coupes d'Europe, à qui les clubs français reprochent un protocole de dépistage Covid trop laxiste et qui menace de quitter les compétitions en cours si ce protocole n'est pas révisé. Écoutez tout de suite les explications du docteur Bernard Dufour, président de la commission médicale de la LNR.
Depuis le mois de septembre, nous n'étions pas du tout d'accord avec le protocole lancé par le PCR, en particulier avec des tests, ce qui est fondamental, c'est les tests à 6 jours avant le match. Donc ça, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, on l'a vu avec Exeter, ils ont été testés le lundi, hein, pour jouer le dimanche. Et donc le lendemain du dimanche, ils avaient 17 cas positifs. S'ils avaient fait du M-3 comme nous, il est pratiquement certain qu'ils auraient détecté des joueurs et que Glasgow ne serait pas venu jouer contre Exeter. Et ainsi de suite. Et c'est là-dessus que nous battons.
Voilà, ils se battent et on va voir avec Jeff dans un instant si la bagarre justement va tourner du côté des Français. Est-ce que vous comprenez, Denis, est-ce que tu comprends l'inquiétude des clubs français vis-à-vis de cette organisation et de ce protocole sanitaire un peu
qui est pas le même que le nôtre, oui, qui est différent totalement. Et il faut s'adapter. Et puis on espère qu'ils vont se mettre sur les protocoles français.
Ouais.
Mais ce qui serait catastrophique, c'est que cette Coupe d'Europe s'arrête. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après, il y a le tournoi derrière. Donc le tournoi. Quid du tournoi.
Messieurs, les Irlandais viennent d'annoncer qu'ils auraient suspendu toutes leurs compétitions nationales.
D'accord. Oui, donc les Écossais ont annoncé cet après-midi reconfinement général.
Voilà.
En dehors du protocole sanitaire, je pense que de toute manière.
Non, on peut penser que ça va s'arrêter.
Ouais. Alors, Jeff, malgré tout, une réunion avait lieu cet après-midi entre le PCR et les Ligues nationales. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'on se dirige vers un boycott des clubs français ou ça peut s'arranger?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une menace de boycott qui existe bel et bien. Et comme on l'a dit, tout le monde s'accorde, en tout cas, pour que le PCR change son protocole sanitaire avec des tests J-3, surtout depuis ce qui s'est passé à Bayonne avec la souche britannique qui a été détectée. Ça inquiète beaucoup. À Pau, on est dans l'incertitude de savoir si c'est le même virus, le même variant du virus. Et ça inquiète parce qu'il est beaucoup plus contagieux. Et on le disait, les tests sont réalisés beaucoup trop tôt par rapport au match. Aujourd'hui, il y a une réunion du groupe médical avec le PCR et les autres ligues britanniques, notamment évidemment la Ligue française. Les choses avancent favorablement. Voilà ce qu'on m'a dit selon une source proche du dossier. Il n'y a pas encore d'accord, mais on se dirige bel et bien vers des tests à J-3. On va voir si ça va faire changer d'avis certains clubs. Il y a certains clubs comme Bayonne qui disaient « En l'état, on va arrêter la Coupe d'Europe ». Il faut rappeler aussi Toulon la position très ferme du RCT après le match annulé contre les Scarlets. Mmh. Et Florent Germain a eu Bernard Lemaitre aujourd'hui. Et je vous cite ce qu'il disait, le président du RCT. « À Toulon, nous sommes très attachés à la Coupe d'Europe, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne jouerons le 15 janvier uniquement si le protocole est adapté et si un test effectué à 3 jours des matchs. Si c'est le cas, est-ce que Toulon va vraiment revenir dans la Coupe d'Europe? Et est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre?
On rappelle que Toulon, avec cette défaite sur le tapis vert, hein, 26-0, a très peu de chances finalement de se qualifier.
Il faut rappeler aussi qu'il y a deux courants.
Oui, bien sûr.
Il y a plusieurs courants, c'est-à-dire des clubs qui sont bien classés pour qui la Coupe d'Europe est un vrai objectif, type le Racing de Jacky Lorenzetti qui s'exprimait notamment chez Manu dans Rugbyrama avec un message clair, pas question de boycott, ça va nous coûter très cher financièrement si on fait pas les matchs, et d'autres qui ont peut-être rien à perdre en boycottant la Coupe d'Europe, on pense par exemple au Stade français, à Castres, à Bayonne, à Pau, c'est pas les mêmes enjeux.
Les enjeux sont pas les mêmes.
Même c'est interdit de boycotter.
Alors non, parce qu'il y a un règlement, je crois, Manu, dis-moi si je me trompe,
en cas de boycott
qui a été édicté en fonction de la signalisation sanitaire de cette épidémie de Covid, qui fait que il y aura pas de suite juridique si les clubs décident, je crois, de quitter la compétition, Manu. Hein.
Ouais, il y a cette clause qui permet effectivement aux clubs et aux joueurs de se désengager, mais ça ferait mauvais genre. Enfin, franchement,
c'est catastrophique.
On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et cette Coupe d'Europe qui boite depuis quelques années, elle a besoin de tout sauf de ça. Il faut qu'on la joue. Si tant est qu'on puisse la jouer dans des conditions normales au niveau sanitaire, je suis comme Jeff, hein, j'ai les mêmes infos. Le protocole va être revu et adapté au modèle français. Il n'y a pas de raison qu'on joue pas.
Il le faut, Manu, parce que regarde, Toulon a eu raison de pas jouer. Regarde ce qui arrive à Bayonne. Ils ont joué les Anglais de Leicester. Regarde, ils ont 3 matchs de top 14 reportés. Mois et demi sans jouer. La saison, elle peut être flinguée, quoi.
Non, mais ils ont eu raison.
On se disait, est-ce qu'ils ont eu raison, Toulon ou pas?
Pas sur la forme. Ils auraient dû attendre. Ils auraient pu attendre. Parce que là, ils se sont mis en danger.
Attendre comment, Manu?
Ils attendaient quelques jours.
Je veux dire, de pas jouer les...
Oui. Ils attendaient quelques heures que le résultat des tests et le match aurait été reporté de toute manière.
Oui, il aurait été
annulé. Ils auraient pu avoir victoire sur tapis vert.
Oui, exactement. Ouais.
Bon, ben nous verrons tout cela, mais de toute manière, c'est vrai qu'avec l'épidémie de Covid qui flambe de l'autre côté de la Manche, tout ça s'annonce compliqué et ça pourrait être compliqué également pour le tournoi et les compétitions à venir. On va en parler dans un instant, d'ailleurs, avec Côté Fermé, les dernières infos de la planète ovale.
RMC, entre les poteaux.
Côté fermé.
Justement, dans le middle du jour, Manu, vous faites un point sur toutes les compétitions à venir, notamment le prochain tournoi, mais encore la tournée des Lions, compétition qui avait déjà été reportée et qui pourrait l'être à nouveau cette année. C'est une tournée qui est très lourde, qui est très fatigante pour les joueurs qui y participent. Donc, on se dirigerait vers une tournée en 2022, c'est ça, un an avant la Coupe du Monde?
Ouais, possiblement, il y a beaucoup de choses. D'abord, reporter, peut-être la faire jouer même, faire jouer les Lions dans les îles britanniques et ne plus avoir à se déplacer. Il y a beaucoup de scénarios qui s'ouvrent aujourd'hui. Les Lions, c'est une très très grosse économie. Le rugby ne peut pas s'en passer et il faudra qu'ils jouent à un moment donné. Maintenant,
oui, mais
vu les conditions sanitaires,
si tu fais jouer cette tournée un an avant la Coupe du Monde, on sait que les Anglais, par exemple, sont partis dans la tournée l'année d'après en sélection.
Mais c'est Fabien Galthié qui a fait le calendrier des Lions. Parce que comme l'a dit Will, les années qui suivent les tournées des Lions sont jamais très très bonnes pour les nations
britanniques. C'est très très bon pour nous. Les dates prévues vont jusqu'à début août, quoi. Ils ont sur les dates prévues, si ça se tenait, ça va jusqu'à début août. Vous imaginez comment ça prolonge la saison.
Donc là, on se frotte les mains.
Voilà, une tournée en 2022, c'est magnifique.
On est champion. On est champion. Voilà.
Si les Néo-Zélandais et les Sud-Africains pouvaient faire cette. C'est quoi? C'est en Afrique du Sud, la tournée?
Ouais.
Très bien. Le tournoi, il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'instant. Là aussi, Manu.
Aujourd'hui, il est parti pour se jouer. Ouais. Les fédérations sont d'accord là-dessus, même s'il va y avoir un match à gagner. Pardon.
Regarde-le celui-là.
Ouais, c'est pas mal.
Il y a qu'un.
Tu vas voir.
Qu'un voyage qui
Toulouse,
l'intéresse.
Tu vas voir, ça va te faire du bien.
On sera bien à Rome. Ah oui. T'inquiète pas, je serai là.
Le seul déplacement du tournoi les consultants, les journalistes partent avec leurs épouses. Ce sera ton cas, Denis?
Peut-être. Mais là, ça précède à Saint-Valentin, donc tu peux faire à Saint-Valentin.
Non, c'est à Dublin.
C'est à Dublin, oui. C'est moins romantique.
C'est moins romantique.
C'est moins Saint-Valentin.
Temple Bar, hein, Denis.
Bon, eh bien, messieurs, nous verrons ça dans les jours qui viennent, avec évidemment des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Merci, messieurs les poteaux.
Merci.
On se retrouve évidemment lundi prochain après une journée de Top 14. Bonne semaine à tous.